taux de criminalité a augmenté en Suisse depuis 7 ans, selon une étude. Ce taux s'aligne ainsi largement sur celui de l'Europe. Cambriolages, violences, menaces sont en augmentation. Cette étude de l'Institut de criminologie de l'Université de Zurich porte sur les délits rapportés par les personnes interrogées. Des délits pas forcément connus officiellement. Le manque de dénonciation est en cause, nous dira Pascal Jeanneret. Nous recevrons Pierre Nideguer, président de la conférence suisse des commandants de police cantonale. Nouveau rebondissement dans l'affaire de blanchiment international à Genève, relevé hier sur notre antenne. Ce sont en fait 350 millions de dollars qu'une compagnie pétrolière saoudienne réclame à une banque privée genevoise. Mathieu Cuplin a examiné pour nous la plainte déposée. Il nous en livrera les détails. Le réseau Santé Valais a pris des mesures après l'audit rendu public au printemps passé, audit qui concernait la qualité des soins du réseau. Il montrait justement une bonne qualité de soins, mais surtout un dysfonctionnement dans l'organisation générale, dans la gouvernance et dans la communication. Maurice Tornet, conseiller d'État valaisan en charge de la santé, nous expliquera ses premières mesures. Le généticien français, président de l'Université Paris-Descartes, Axel Kahn, est notre invité. Il est de passage à Lausanne pour les 70 ans de Pro Infirmis Vaud. L'occasion de lui demander quelle place pour les handicapés dans la société d'aujourd'hui, quelle tolérance pour la différence à l'heure où les progrès scientifiques se multiplient. Axel Kahn nous répond dans une vingtaine de minutes. Temps bien ensoleillé aujourd'hui avec des températures de 25 degrés en moyenne. Demain et jeudi, le soleil sera parfois voilé par des nuages d'altitude. Les températures ne changeront pas ces prochains jours. Météo de Carole Dubuis, c'est dans une demi-heure. Et on va prendre tout de suite des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Suite à un accident, un bouchon s'étend sur l'autoroute Lausanne-Yverdon entre les jonctions de Cossonay et de la Sarra en direction d'Yverdon et sur l'axe Vevey-Fribourg. Un déversement de gravier provoque la fermeture d'une voie de circulation entre l'échangeur de Laver et la jonction de Châtel-Saint-Denis en direction de Fribourg. La criminalité a donc augmenté en Suisse depuis 2004. Elle dépasse la moyenne de plus de la moitié des pays européens. C'est ce qui ressort du sondage national de victimisation mené auprès de 2000 personnes. En 5 ans, le taux de personnes victimes de cambriolage est passé de 5 à 7% des sondés et le taux des personnes victimes de violences ou de menaces de 7 à 10%. Un sondage qui corrobore les statistiques officielles, Pascal Jeanneret.
Il s'agit ici d'un sondage qui mesure les expériences de criminalité. Le dernier a été réalisé en 2004 et l'évolution est claire. Le taux de personnes qui disent avoir été victimes de violences ou de menaces est en hausse, 10% aujourd'hui contre 7% en 2004, vous l'avez dit. La hausse est sensiblement plus forte chez les jeunes et cette hausse ne relève pas de la violence domestique mais se subit clairement sur la voie publique. Hausse également du nombre de victimes de cambriolage. En 2004, 5% de la population affirmait avoir été victime d'effractions. Sur les 5 dernières années, ce taux est passé à 7%. En revanche, le nombre de victimes d'agressions d'ordre sexuel diminue légèrement. Stabilité d'autres types de criminalité et baisse forte, par exemple, du vol dans les véhicules. Mais dans l'ensemble, le constat dressé par le professeur Martin Kilias, directeur de l'Institut de criminologie de l'Université de Zurich ce matin, est très clair. L'idée selon laquelle la Suisse serait un îlot de sécurité au milieu de l'Europe relève du mythe. En matière de criminalité, plusieurs États de l'Union sont meilleurs que la Suisse en 5 ans. La Confédération helvétique a ainsi atteint la moyenne européenne. Ce sondage, particulièrement dans l'aspect violence et menaces, corrobore les statistiques officielles basées sur le nombre de dénonciations de cas, mais aussi la hausse du sentiment d'insécurité.
À vos côtés, Pascal Pierre Nideguer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la conférence suisse des commandants de police cantonale. Pascal Jeanneret vient de le dire. Le mythe de la Suisse comme pays le plus sûr du monde a vécu. C'est ce qu'a dit Martin Kilias ce matin. On s'aligne même sur le taux de criminalité européen. Le constat est inquiétant aujourd'hui.
Disons qu'il est préoccupant pour les polices de Suisse parce que, évidemment, le sondage réalisé par le professeur Kilias corrobore déjà certains enseignements respectant ces informations que nous avions lors de ces dernières années en démontrant une évolution pas très positive de la criminalité.
Donc pas d'amélioration pour le moment ?
Il n'y a pas d'amélioration pour le moment. Il faut rester positif et croire aux mesures qui seront prises par les polices, par les autorités politiques suite à ce sondage, parce que ce sondage doit être utilisé maintenant pour tenter de dégager des pistes et pour améliorer le sentiment de sécurité et la sécurité en Suisse.
J'allais vous le demander justement, des mesures à prendre, lesquelles par exemple, Pierre Nideguer ?
Le sondage du professeur Kilias évidemment révèle certaines pistes. Je rappelle que ce sondage touche les victimes surtout, principalement les victimes, et c'est elles qui nous donnent certaines pistes à suivre pour améliorer leur sécurité ou leur sentiment subjectif de sécurité, en particulier la présence policière. Aussi, dans certains cas, la question des contrôles de circulation, les questions d'intervention policière qui devraient être parfois plus rapides pour le citoyen se trouve des fois pas forcément délaissé par rapport à la situation qu'il vit. Donc il y a beaucoup de pistes qui sont maintenant données par le professeur Kilias, c'est qu'il s'agit dans toutes les polices cantonales de ce pays d'étudier pour trouver les bonnes mesures.
Manque de dénonciation de certaines criminalités, on l'a évoqué, Pascal Jeanneret en a parlé. On pourrait dire que c'est l'hypothèse de la peur qui prédomine, on n'ose pas forcément dénoncer aujourd'hui.
Sur la dénonciation, évidemment, il est possible que certaines catégories de personnes victimes d'infractions renoncent à déposer une plainte pénale ou une dénonciation par peur de représailles ou par peur des conséquences que ça pourrait avoir. Mais le professeur Kilias, dans son étude, révèle aussi que ce pourcentage de dénonciation dépend également, je dirais, de la qualité que chacun attribue à la dénonciation, respectivement le temps ou l'énergie qu'il doit mettre par rapport au délit qui est fixé et qu'il a vécu.
Pierre Nidegger, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on peut expliquer ces chiffres, notamment par la société de 24 heures et la vie nocturne, notamment ?
Alors, je dirais que pour, en tout cas, prendre en compte certaines réalités statistiques, la société des 24 heures, pour la police suisse, évidemment, a des effets très importants. D'une part, parce qu'elle oblige la police à se
être
déployer
plus sur le terrain la nuit, notamment, oui.
Durant toute la journée et toute la nuit, respectivement, qu'elle peut avoir des implications sur la violence par la consommation d'alcool. Et si on regarde des statistiques de police, on se rend compte qu'une grande partie des délits sont quand même dus à la consommation d'alcool, que ce soit les violences, mais aussi l'ivresse au volant ou d'autres délits, violence domestique aussi. S'il n'y avait pas consommation d'alcool ou trop de consommation d'alcool, il y aurait moins de problèmes.
La criminalité donc a augmenté en Suisse depuis 2004. Vous réagissiez à cela, Pierre Nidegger, président de la conférence suisse des commandants de police cantonale, invité par Pascal Jeanneret. Bonne journée à vous.
Merci, pareillement.
Nouveau développement dans l'affaire de blanchiment international qui occupe la justice genevoise. Nous le révélions hier sur nos ondes. Trois hommes sont inculpés à Genève. Ils sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin dans le cadre de contrats pétroliers. On apprend maintenant que la compagnie saoudienne, qui se dit victime dans cette affaire, a déposé une plainte contre la banque privée genevoise auprès de laquelle les trois inculpés ont ouvert des comptes. Mathieu Cuplin.
Oui, et c'est une affaire qui doit donner quelques sueurs froides à cette grande banque privée genevoise. Face à elle se dresse la puissante compagnie saoudienne Al Rushaid, qui vient de déposer une plainte devant la Cour suprême de l'État de New York. Le groupe saoudien réclame plus de 350 millions de dollars de dommages-intérêts à la banque genevoise, soit le montant qu'elle estime avoir perdu à cause des trois consultants accusés de corruption, trois hommes qui devaient conclure en son nom d'importants contrats d'achat de matériel. Alors en quoi la banque serait-elle responsable ? Eh bien, dans sa plainte, le groupe saoudien n'y va pas de main morte. Il reproche aux banquiers genevois et particulièrement à l'un de ses hauts cadres d'avoir aidé et même incité les trois inculpés à dissimuler les dessous de table.
Et comment techniquement la banque aurait-elle opéré, Mathieu ?
Eh bien, le gérant de fortune aurait aidé les trois hommes à créer une société écran dans les îles Vierges britanniques. L'argent des pots de vin supposés transitait par le compte ouvert au nom de cette société auprès de la banque genevoise. Il était ensuite redistribué à parts égales sur les comptes personnels des trois inculpés. D'après les plaignants, le banquier genevois connaît l'un des inculpés de longue date. Il savait pour qui il travaillait et devait forcément savoir aussi que les sommes versées sur ses comptes n'étaient pas en rapport avec la rétribution versée par son employeur. On sait que des responsables de la banque ont été entendus à Genève dans le cadre de la procédure pénale pour blanchiment. Les mouvements de compte sont jugés extrêmement suspects par le procureur. S'ajoute maintenant ce volet civil devant la justice américaine, une situation délicate pour la banque privée. Son service de la communication répond aujourd'hui que la banque rejette l'ensemble des accusations, tant sur la forme que sur le fond, et qu'elle utilisera tous les moyens juridiques à sa disposition pour se défendre.
Précision de Mathieu Cuplin en direct de Genève. L'hôpital du Valais 2020 devrait être connu à la fin de l'année prochaine. Des réformes ont été présentées ce matin à l'hôpital de Sion par le conseiller d'État Maurice Tornet et les responsables de l'hôpital du Valais. Réformes qui donneront un nouveau visage au réseau Santé Valais. Réformes d'ailleurs suggérées par l'audit de la Fédération hospitalière de France. Toutes ces réformes sont donc en route, Claude Défago.
Elles sont en route et certaines ont déjà été prises dès ce printemps et durant l'été. Pensons à la restructuration du service de radio-oncologie ou à la mise en place d'une meilleure communication. Mais ça, c'était le facile et le rapide à mettre en place. Ce matin, c'est le moyen et le long terme qui ont été évoqués, pas encore avec des décisions, mais avec la présentation d'une stratégie et des moyens pour l'atteindre. Cette stratégie consiste à définir ce que sera l'hôpital du Valais jusqu'en 2020 et plus tard. Cela va des soins à la gouvernance de l'institution. Avant les moyens, il y a la démarche. Elle se veut participative avec l'implication de l'ensemble du personnel et aussi des médecins, notamment extérieurs au réseau. Ces moyens, c'est aussi un comité de pilotage, un COPIL conduit par le chef du département de la santé publique et qui s'appuie sur des groupes de projets aux tâches bien définies. L'ensemble des travaux sera conduit et supervisé par des consultants extérieurs. Cette tâche a été confiée à une filiale de la société qui a réalisé l'audit du RSV. Les travaux du COPIL et des groupes de projets débutent le 1er septembre, délai ultime pour rendre leur copie fin 2012.
À vos côtés, Claude Desfagots. Maurice Dornay, bonjour.
Bonjour.
Chef du département de la santé publique valaisanne en direct de Sion. Claude Desfagots vient de le dire, fin 2012 pour rendre votre copie. C'était la date du butoir. Vous avez été assez vite. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de précipitation ?
Alors, je crois qu'il est nécessaire de passer à l'action, mais bien entendu qu'on doit passer à l'action avec de la clairvoyance, en distinguant dans les types de mesures et dans l'ampleur de ces mesures. Il n'y a donc pas de précipitation, mais de la distinction à avoir quant à l'importance de certaines mesures et des conséquences de celles-ci sur l'hôpital du Valais 2020.
Passer à l'action, vous le dites, est-ce que c'est aussi pour redorer d'une certaine façon l'image du réseau Santé Valais mise à mal ces derniers temps, malgré l'audit qui disait bonne qualité de soins, mais il y avait quand même des problèmes dans l'organisationnel?
Alors, il ne s'agit pas en premier d'améliorer l'image du réseau Santé Valais. Elle est de qualité, nous le savons, quant aux prestations qui sont fournies et quant aux aspects de sécurité des patients. Mais bien entendu que si nous pouvons, par un certain nombre d'actions, faire en sorte aussi que l'image soit conforme à la réalité, ceci n'est bien entendu que positif.
Prenons la composition de votre comité de pilotage, le COPIL, composé de vous-même, du directeur général du réseau Santé Valais, du chef du service de la santé publique, du président du conseil d'administration. Toute cette tête pensante, si vous me permettez l'expression, c'est l'objectif d'avoir de nouvelles idées pour la suite.
Alors, j'aimerais d'abord préciser que je ne suis pas directement impliqué dans le comité de pilotage, mais par ma fonction de chef du département...
On vous demande votre avis quand même.
Je suis l'autorité, effectivement, qui, un jour ou l'autre, devra prendre probablement des décisions. Bien sûr que des idées nouvelles émergentes sont possibles et elles ont été parfois exprimées à travers l'audit. Elles le seront également à travers les personnes nouvelles dans le cadre de cette action participative que nous avons voulu, en invitant des représentants des médecins installés, en invitant le personnel soignant, à travers des infirmières et infirmiers responsables hors de l'hôpital et dans les groupes. Nous aurons aussi un élargissement aux médecins hospitaliers et bien sûr au personnel du réseau Santé Valais pour écouter, les entendre et peut-être retirer de leur participation ces idées nouvelles intéressantes.
Maurice Dornay, pour le moyen et le long terme, quelles sont maintenant les premières mesures à prendre dans ce dossier ?
Alors, bien sûr, en fonction de l'ampleur de celle-ci, vous avez déjà entendu l'un ou l'autre exemple, mais il y a notamment l'uniformisation du système de déclaration des incidents hospitaliers. C'est un élément important où le réseau Santé Valais a déjà agi. Il y a bien sûr la communication et l'amélioration de l'information donnée aux patients et aux proches. Là aussi, le réseau Santé Valais a déjà pris des mesures. Ce sont bien sûr des mesures importantes, mais qui pouvaient être prises rapidement, sans pour autant céder à la précipitation. Et puis il y a maintenant des mesures qui nécessitent des transformations de plus grande ampleur et celles-ci doivent bien sûr être prises également. Mais le réseau Santé Valais, c'est 4700 emplois, c'est donc un paquebot que l'on doit piloter avec délicatesse et en manœuvrant avec beaucoup de sensibilité pour avancer dans la bonne direction et en faisant en sorte qu'il ne se renverse pas. Ce serait extrêmement dommage. Effectivement.
Voilà, une image maritime pour finir. Je vous remercie Maurice Dornay, chef du département de la santé publique valaisanne, invité par Claude Desfagots. Excellente journée à vous.
Merci à vous.
Le peuple se prononcera sur la prise en charge des interruptions de grossesse. L'initiative lancée par les milieux anti-avortement a formellement abouti. Ils ont récolté plus de 110 000 signatures. Ce texte exige que l'avortement soit radié des prestations de l'assurance maladie de base. La loi pourrait prévoir de rares exceptions, notamment en cas de viol ou lorsque la vie de la femme enceinte est en danger. Le nombre de personnes à l'aide sociale a légèrement augmenté en 2010. C'est le résultat d'une étude présentée ce matin par l'Initiative des villes suisses. Cette étude analyse la situation dans 13 villes, dont seulement 2 en Suisse romande, Lausanne et Bienne. Et c'est précisément dans ces deux villes, Vincent Bourquin, que le taux d'aide sociale est plus élevé.
C'est à Bienne que le nombre de personnes à l'aide sociale est le plus élevé, avec un taux de 10,9%, suivi de Lausanne avec 9,9%, soit une très légère baisse des demandes dans la capitale vaudoise et une petite augmentation dans la cité ceylandaise. Deux endroits qui ont aussi parallèlement connu une hausse démographique. Parmi les 13 cités évaluées par cet organe de l'Union des villes suisses, Bâle figure en troisième position avec 6% de bénéficiaires de l'aide sociale et Zoug, par exemple, n'est qu'à 1,7%. Ces écarts parfois important entre les différentes villes du pays s'explique par la taille, la situation géographique, le marché du logement ou encore les conditions économiques. Mais globalement, le taux d'aide sociale a reculé dans pratiquement toutes les villes passées sous la loupe ces 5 dernières années. À propos des bénéficiaires de l'aide sociale, cette analyse montre encore une forte proportion d'enfants et de jeunes. Entre 26 et 35% ont moins de 18 ans. Et pour tenter de lutter contre ce phénomène, les villes ont développé et continuent à le faire l'éducation de la petite enfance.
La confiance des consommateurs suisses s'est encore dégradée en juillet selon l'indicateur UBS qui affiche un recul de 0,2 points à 1,2 points selon les chiffres publiés ce matin. Il s'agit du plus bas niveau atteint depuis décembre 2009, un climat morose qui découle des crises européennes et américaines. UBS prévoit cette année encore une croissance solide de la consommation des ménages de l'ordre d'1,6%. Et le secteur de la construction a pris de l'élan au second trimestre. La production a augmenté de 3,1% par rapport à la même période de l'an dernier et les chiffres d'affaires ont progressé de 5,5% selon les chiffres publiés ce matin par l'Office fédéral de la statistique. À l'étranger, le boom des énergies vertes prend tout son sens en Allemagne. Dans ce pays, les énergies alternatives couvrent désormais plus de 20% de la production d'électricité grâce au vent, la biomasse, au soleil et à l'eau. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de la Fédération des énergies hydrauliques sur les 6 premiers mois de l'année. Des chiffres qui tombent à point nommé au moment où le pays a décidé de sortir du nucléaire. Blandine Milson.
Au cours des 6 premiers mois de l'année, les énergies renouvelables ont représenté plus de 20% de la production d'électricité en Allemagne. 20,8% très exactement, soit quelque 57 milliards de kilowattheures. C'est un record. Et le mouvement semble de plus en plus rapide, car l'an dernier, à la même période, on en était à un peu plus de 18%. Ces chiffres, fournis par la Fédération de l'énergie hydraulique, donnent le détail des différentes sources de renouvelables. En tête arrive le vent, 7,5%, suivi par la biomasse, le soleil, avant l'eau. Ces chiffres tombent à point alors que l'Allemagne a en effet décidé, après la catastrophe de Fukushima, d'abord de débrancher immédiatement 8 de ses centrales nucléaires et ensuite de déconnecter les 9 autres restantes d'ici à 2022. Les choses semblent donc s'accélérer, même si le tournant vers les énergies propres a été pris très tôt en Allemagne, dès le début des années 90. Blandine Milson, Radio Suisse Romande, Berlin.
Les forces de sécurité syriennes ont ouvert le feu ce matin sur une manifestation contre le régime de Bachar el-Assad. 7 personnes ont été tuées, a-t-on appris auprès de l'opposition. Selon des militants, les troupes ont tiré sur des manifestants dans la province de Dera, à Homs, ainsi que dans la banlieue de Damas. Mais c'est à Dera où les victimes ont été le plus nombreuses.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Faire du porte-à-porte et s'inviter, même chez les gens, pour parler politique. Eh bien, c'est la méthode choisie par les jeunes libéraux radicaux neuchâtelois pour faire campagne en vue des élections du 23 octobre prochain. À l'ère des réseaux sociaux et des campagnes de communication massives, notamment sur Internet, cette méthode est-elle vraiment efficace? Jérôme Galichet a suivi Yann Amael Aubert, tête de liste pour les jeunes PLR à Neuchâtel, dans l'une de ses tentatives pour aller au contact des citoyens. Reportage.
Je suis bien chez c'est M. Vous. Muller, c'est ça?
Oui, c'est vous, les jeunes libéraux,
oui,
radicaux.
Tout à fait, c'est moi.
Merveilleux. Alors écoutez, je vais ouvrir ici le portail, comme ça vous pouvez m'aider à préparer les tables.
Je vous remercie d'ores et déjà de nous accueillir, c'est vraiment très gentil de votre part.
Monsieur, quand ils vous ont proposé de venir chez vous parler politique, ça vous a tout de suite plu?
Ça m'a beaucoup séduit comme formule, parce que je trouve ça merveilleux, comme ça c'est non formel, et puis on peut faire. J'ai une question assez jeune, est-ce que mon chien vous dérange?
Absolument pas, j'aime beaucoup les chiens, surtout qu'il a l'air très gentil, donc je me réjouis de lui, d'être accueilli par un aussi joli animal.
Vous pouvez ensemble, attention.
Yanamel, Aubert, les gens qui sont là ce soir, ils sont acquis à votre cause un petit peu, non?
Alors écoutez, moi les gens qui sont là ce soir, à l'exception... pour le moment, de personne en fait, je les connais pas. Je sais même pas forcément d'où ils viennent. C'est vraiment Monsieur Muller qui a invité les gens du quartier, ses amis. Donc non, je peux pas dire qu'ils sont acquis à la cause. Au contraire, c'est vraiment une occasion d'aller à la rencontre de la population pure et simple.
Le Parti libéral radical, c'est le parti des banques. C'est pas le parti proche des citoyens quand même.
Ben la preuve du contraire.
Bonjour madame, Yanamel Aubert, enchantée.
Merci, enchantée.
Je vous remercie d'être là ce soir. Est-ce que je peux, pour vous accueillir, vous offrir un verre? On a décidé cette année d'inaugurer en faisant une cuvée spéciale pour les élections. Donc on a notre propre vin en fin de compte de campagne.
Mais, je suis une voisine, exactement. Vu que je n'ai pas un grand intérêt pour la politique... ça peut toujours être intéressant d'échanger certains mots, certaines discussions.
Yanamel Aubert, vous êtes tête de liste sur la liste des jeunes libéraux radicaux. Aujourd'hui, vous allez chez les gens dans un petit village comme Corneau, ici, 2-3 000 habitants, pas plus. D'autres mis sur les réseaux sociaux, sur un éventail plus large. Vous ne faites pas un peu fausse route?
Écoutez, les réseaux sociaux, ils touchent toute la Suisse romande. Tandis que là, on touche vraiment nos électeurs, les gens qui iront peut-être se déplacer dans les urnes le 23 octobre. Donc, non, je crois que c'est complémentaire. C'est important d'être présent sur les réseaux sociaux, mais ça suffit pas. Je pense que retourner vers les citoyens, ce qui ne se fait plus tellement maintenant, c'est aussi une chose de se démarquer un peu de nos adversaires politiques.
Je suis pas une personne engagée assez dans le truc. Et puis,
Est-ce que vous pensez voter le 23 octobre prochain?
Bien sûr. Ben oui. Si je comprends bien la chose, je suis pour, mais si je comprends pas, je vote pas.
Un reportage du côté de Neuchâtel de Jérôme Galichet. Et le plaisir d'accueillir dans ce journal le généticien français président de l'Université Paris-Descartes, Axel Kahn. Bonjour Axel Kahn.
Bonjour madame.
En direct de Beaulieu, vous participez à un colloque public organisé dans le cadre des 70 ans de pro-infirmise Vaud. Au menu de ce colloque, échange sur le diagnostic préimplantatoire. On va juste rappeler ce que c'est. C'est un outil de recherche pour déceler les risques génétiques présents dans un embryon. Et bien justement, Axel Kahn, tout d'abord vous soumettre à l'actualité suisse, le diagnostic préimplantatoire. Il est interdit justement en Suisse. Il y a des révisions qui sont en cours. On vise à lever cette interdiction. Comment est-ce que vous voyez cette actualité-là?
Je crois qu'il y a peu de raison que l'on puisse défendre mordicus pour interdire le diagnostic préimplantatoire. Il faudrait préciser simplement un peu ce dont il s'agit. Il s'agit d'un diagnostic prénatal, c'est bien sûr fait avant la naissance, mais même il est fait avant que le fœtus soit implanté dans l'utérus de la mère, et par conséquent il implique une fécondation in vitro. Et la grande différence avec le diagnostic prénatal, c'est qu'en cas de diagnostic positif qui justifie une interruption de grossesse, dans le cas du diagnostic préimplantatoire, il n'y aura pas d'interruption de grossesse, il y aura simplement décision de mettre dans l'utérus de la femme en priorité les fœtus, les embryons qui ne sont pas porteurs de la tare génétique redoutée. Donc vous voyez que c'est très singulier que de l'interdire, car c'est dire à certaines femmes qui demandent qu'on y recourt: écoutez madame, il faut que vous débutiez une grossesse, puis vous subirez un diagnostic prénatal, et si le test malheureusement est positif, alors avortez donc. Alors même que la technique permettrait à ces femmes d'éviter, on va dire, ce chemin de croix, car il y a quelque chose du chemin de croix tout de même pour une femme, pour un couple, de débuter une grossesse, de faire le diagnostic, d'avoir à avorter. Et vraiment, je ne vois pas sur quel argument on peut s'opposer à la mise en œuvre, en tout cas dans le cas que j'ai résumé ici, du diagnostic préimplantatoire.
Prévenir l'apparition de certaines pathologies, comme vous venez de l'expliquer, réduire aussi le risque de handicap, avoir le choix effectivement bien avant. Ça pose aussi cette question, Axel Kahn. La société d'aujourd'hui, est-ce que c'est une société qui accepte de moins en moins le handicap?
Moi, je crois que la société doit naturellement accueillir toutes les personnes handicapées. La caractéristique d'une personne handicapée est d'être une personne comme les autres et une personne en difficulté que la société doit aider. Mais dire que la personne handicapée est une personne admirable, peut-être une personne admirable, dire qu'il peut y avoir un lien humain d'une très grande luminosité entre les non-handicapés et les handicapés, ça ne veut pas dire naturellement que le handicap soit désirable. Est-ce qu'il est désirable d'être affecté par une cécité? Est-ce qu'il est toujours désirable d'être malentendant? Est-ce qu'il est désirable d'être infirme moteur cérébral? Personne ne peut prétendre cela. Donc, en même temps que l'on accueille avec générosité les personnes handicapées, essayez de donner le choix aux gens qui sont les plus concernés, c'est-à-dire aux parents, pour savoir si ils sont capables de faire face à tout ce que cela implique que de se préparer à la naissance d'un enfant gravement handicapé, me semble en effet plutôt une avancée.
Mais ça pose aussi la question de la place pour la différence. Est-ce qu'il y a encore une place pour la différence dans la société un peu plus perfectionniste d'aujourd'hui ?
Alors, dans le même mouvement que celui par lequel j'indique qu'il n'y a pas de raison de s'opposer au diagnostic préimplantatoire, je pourrais aussi bien développer mon grand militantisme contre, on va dire, une espèce de tendance eugéniste. La diversité de la population, la différence, est facteur de richesse. Mais, comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention et reconnaître la valeur d'une personne handicapée. La valeur du handicap ne veut pas dire que le handicap lui-même soit un trait désirable et ne veut pas dire que, dans le même mouvement, d'une part, on ne développe pas la solidarité envers les personnes handicapées et dans un autre mouvement, s'il est possible d'éviter les handicaps les plus graves, qu'on s'y efforce.
Effectivement, en discussion aujourd'hui à Beaulieu notamment, où se situe la limite entre progrès scientifique et dilemme éthique, un juste milieu, c'est possible ?
Moi, je crois qu'il faut concevoir avant tout le diagnostic préimplantatoire comme une proposition de l'ordre de la confiance faite à la femme et de la liberté. En d'autres termes, une femme sait, parce que malheureusement elle a déjà eu un enfant qui a été atteint, que si elle remet en route un enfant, il risque d'être atteint dans un quart des cas ou dans la moitié des cas suivant les maladies. Cette femme-là, on lui donne le choix. On lui dit, écoutez madame, si vous acceptez, si vous le voulez, si vous le demandez, nous pouvons un peu vous rassurer, c'est-à-dire vous mettre à l'abri d'engager une grossesse qui sera interrompue par un avortement. Et c'est vraiment, car personne n'est plus concerné qu'elle-même, c'est vraiment de l'ordre de la confiance et de la liberté investie en la femme que de lui donner et cette information et ce choix. Si bien qu'il y a là et une avancée scientifique et, me semble-t-il, un progrès, je dirais même humaniste profondément.
Longtemps chercheur, Axel Kahn, maintenant président de l'Université Paris-Descartes depuis 4 ans. Votre mandat va bientôt s'achever à la fin de l'année. Vous aviez, dans un entretien au Monde, défendu votre conception de l'université comme dernier lieu de civilisation. Je vous demanderai de conclure là-dessus en une minute, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'université ?
En effet, l'université est le lieu d'un des projets les plus exaltants, me semble-t-il, des temps modernes, puisque c'est l'endroit où on forme des jeunes à cette confrontation, à la diversité des disciplines, où chacun s'enrichit. Vous parliez de différence, de la différence culturelle, conceptuelle des autres, que grâce au savoir et aux compétences, on se prépare d'une part à être un citoyen ayant les possibilités d'intervenir dans la vie de la cité, mais également on se prépare à avoir les moyens de gouverner sa vie en ayant accès à l'emploi, c'est-à-dire que c'est le lieu de la progression de notre humanité, aussi bien par la mise en commun de nos différences que par l'appropriation individuelle de nos capacités.
Je vous remercie Axel Kahn. Et si on veut vous rencontrer aujourd'hui, il faut vous rendre du côté de Beaulieu, généticien, président de l'Université Paris Descartes. C'est donc un colloque organisé par Pro Infirmis. C'est ouvert au public, donc vous allez rencontrer les gens, conclure d'ailleurs tout à l'heure cette conférence. Axel Kahn, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie.
Au revoir madame.
À la mi-journée, la bourse suisse, l'indice SMI. Il est aujourd'hui en hausse 0,1% à 5 454 points. Les prévisions météo, elles sont signées aujourd'hui Carole Dubuis.
L'après-midi sera bien ensoleillé. On pourrait néanmoins encore apercevoir quelques passages nuageux, surtout au nord de la Suisse romande. En montagne, on pourrait aussi rencontrer quelques cumulus qui resteront inoffensifs. Le mercure grimpera jusqu'à 22 degrés, 24 en Valais. L'isotherme du zéro se hissera à 3600 mètres. Un vent faible à modéré d'ouest, voire de sud-ouest, animera la montagne. Demain, on profitera d'un dernier jour d'août qui s'annonce estival. Le ciel sera bien ensoleillé malgré le passage de nuages de haute et moyenne altitude. Dans l'après-midi, on pourra admirer quelques cumulus autour des crêtes, notamment le long du Jura. En soirée ou dans la nuit, un ou deux orages pourraient se manifester en montagne, ainsi que des averses localement. Il fera un maximum de 24 à 26 degrés en plaine. Jeudi, un courant de sud-ouest apportera davantage d'humidité en Suisse romande. Le temps sera instable, oscillant entre éclaircies, nuages et précipitations qui seront plus nombreuses en montagne durant l'après-midi.
La météo avec De Villars. Solution d'impression en réseau.
Infotrafic RSR.
De forts ralentissements restent signalés sur l'autoroute Lausanne-Yverdon entre les jonctions de Cossonay et de la Sarra en direction d'Yverdon. Un accident est à l'origine de cette perturbation. En revanche, sur l'axe Vevey-Fribourg, les opérations de déblayage se sont achevées. Toutes les voies de circulation sont à nouveau ouvertes au trafic entre l'échangeur de Laver et la jonction de Châtel-Saint-Denis en direction de Fribourg. Fin de ce journal, merci à toutes les équipes de la rédaction qui m'ont aidé à le préparer. Retrouvez l'entretien avec Axel Kahn sur rsrinfo.ch. Demain, dans ce journal, David Racana recevra Geneviève Petitpierre, professeure à l'Université de Genève. Elle nous parlera des comportements agressifs des polis handicapés. Excellent après-midi sur la première, il est 13h.